18h20 sur France Culture et une invitée exceptionnelle ce matin dans l'émission. Elle est journaliste, essayiste, réalisatrice, auteur en 2000 d'un livre qui s'intitulait « Nos logos », l'un de ses livres dont le titre devient un slogan et qui a été un vrai manifeste pour de très nombreux mouvements altermondialistes. Bonjour Naomi Klein.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la publication de « La stratégie du chaos », ça paraît chez Actes Sud. C'est une réflexion inquiète et militante sur notre monde, sur le capitalisme moderne, ce que vous appelez le capitalisme du désastre. On va évidemment en parler dans un instant. Merci à Michel Zlotowski d'assurer la traduction de notre entretien ce matin. Première question, Naomi Klein, la stratégie du choc, qu'est-ce que c'est ?
Well, it is a philosophy of power, and what I'm arguing
c'est une philosophie du pouvoir.
In the book is that
et ce que je dis dans le livre,
economic model that
c'est que ce modèle économique,
capitalism,
est appelé souvent capitalisme sauvage,
eh
bien n'a pas entraîné le monde dans la démocratie et la liberté, comme on l'a souvent entendu, mais exploite intentionnellement ce choc et ce chaos. Nous le savons dans les étapes précédentes du capitalisme, mais l'étape actuelle du capitalisme qui a 30 ans, l'époque de Reagan et de Thatcher, eh bien, change un petit peu l'histoire officielle, parce que l'histoire officielle, c'est celle qui est racontée par les vainqueurs. Et maintenant que cette idéologie est en crise, il est temps d'avoir une vision plus réaliste de la façon dont différents désastres et différentes situations de désorientation ont préparé le terrain pour faire avancer des politiques qui ne sont pas populaires et auxquelles on s'oppose avec violence.
Pour avoir cette vision réaliste, pour la comprendre, il faut avoir l'image du choc. Cette image, pour la comprendre, il faut imaginer le système de torture mis en place par la CIA ces dernières années. Pourquoi est-ce que ce choc, il faut le chercher dans ces situations de torture ?
Well, this comes from the research that this book really began in my research in Baghdad.
Ce livre a commencé avec ma recherche faite à Bagdad en 2004.
I was covering the war for North America.
En fait, je couvrais la guerre pour des journaux nord-américains. Je suis rentré de Bagdad et j'ai senti que je devais comprendre ce qu'était le choc, parce que ça, c'était la métaphore pour, vous savez, pour l'invasion américaine, choc et terreur. C'était le slogan pour la transformation économique de l'Irak, la thérapie du choc. Et quand les premières photos d'Abu Ghraib sont apparues dans la presse aussi. Donc, j'ai voulu comprendre ce qu'était cet état de choc et j'ai commencé à lire les manuels de la CIA. Comment mettre des individus en situation de choc, qui est définie comme une situation de régression. Et là, ça ouvre une fenêtre où on peut arriver à faire aux prisonniers ce qu'on veut. Et donc, j'ai compris que cette stratégie s'appliquait à tout l'Irak, pas simplement pour quelques prisonniers, que tout l'État, que tout le pays était mis dans une situation de choc et de terreur, et que justement, là, on le mettait en situation d'ouvrir une fenêtre, et que finalement, ce pays n'a pas été soumis à la volonté des Nations Unies, comme ça arrive parfois avec des prisonniers. Et bien là, cette méthode de torture était une méthode de mettre en place et d'appliquer des méthodes économiques et politiques qui n'étaient pas populaires. Et ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce que c'était la psychologie au travail dans ce qu'on appelle le capitalisme du désastre.
C'est le fil que vous tirez pour expliquer ce capitalisme du désastre. On connaît les profiteurs de guerre, Naomi Klein. Ils existent depuis qu'existent les guerres. Mais vous parlez d'un système nouveau. Comment fonctionne-t-il ?
Il est à la fois ancien et nouveau. Le président américain Dwight Eisenhower avait averti dans son dernier discours après la guerre de la montée du complexe militaro-industriel. Ce que je décris dans ce livre, c'est le complexe militaro-industriel. C'est beaucoup plus important que les sociétés qui fabriquent des armes et les firmes d'ingénierie, les sociétés d'ingénierie que nous avons construites après la guerre. Il y a maintenant l'obsession de privatisation. Tout a été privatisé. Blackwater, par exemple, c'est la société qui se bat en Irak. Ce sont des sociétés privées qui s'occupent des anciens combattants quand ils rentrent de l'Irak. Mais Finalement, lorsqu'il y a des épidémies, ce sont les sociétés privées de vaccination qui font des profits. Quand il y a des manques de nourriture, eh bien, ce sont les sociétés agroalimentaires qui font des bénéfices. Maintenant, même, par exemple, les semences sont préparées à, par exemple, les semences vendues par les sociétés privées sont préparées à des systèmes dans lesquels l'atmosphère ne sera plus la même qu'aujourd'hui, par exemple. Et donc, ce qui s'est passé après l'ouragan Katrina, par exemple, aux États-Unis, on a vu qu'il y a une industrie privée énorme qui vend du sauvetage aux rescapés. Et en même temps, ça maintient les pauvres là où ils sont. Et donc, il y a très peu d'analyse, mais il y en a un petit peu du côté de la gauche qui dit « Oui, le capitalisme est en crise, regardez ce qui se passe en Irak, regardez le réchauffement global, tout le système va s'effondrer. » Mais moi, je dis quelque chose d'un petit peu différent. C'est que le marché s'adapte à un marché qui sera fait de crise à l'avenir. C'est un nouveau modèle. Et c'est très inquiétant parce que nous perdons l'incitatif à, si vous voulez, sortir de cette ligne qui nous mène au désastre.
Vous savez, le reproche qu'on peut vous faire et que vous désamorcez dans le livre Naomi Klein, c'est celui de la théorie du complot. Il y aurait une conspiration d'un certain nombre de grandes firmes multinationales qui voudraient mettre la main sur le monde entier ou en tout cas sur ce qui peut leur profiter. Et pourtant, il n'y a pas de complot.
Je ne pense pas qu'il y ait une conspiration. Là. On m'appelle une théoricienne du complot. Non, c'est une stratégie politique de la part de mes opposants politiques pour critiquer ma recherche. Mais l'idée qu'il y a une logique au sein du capitalisme qui cherche une croissance, c'est un fait. C'est pas une conspiration. C'est la théorie qui est au cœur de toutes les théories du marché. Il y a des incitations au profit et c'est l'incitatif le plus puissant de l'être humain. Donc, ce que je recherche, c'est où cette logique est placée à l'époque moderne. Et dans mon livre, mes preuves pour cet argument proviennent des économistes eux-mêmes, de ceux qui font la politique, des politiciens. Il y a un corps de recherche, disons principalement à gauche, dont les gens pratiquement à gauche ne connaissent pas, c'est la théorie de la crise, l'utilité des crises. Et je fonde mes arguments sur un corps de recherche, sur une littérature que j'ai découverte dans ma recherche, qui montre qu'il a été impossible d'imposer une thérapie de choc économique sans une préparation. Ça peut être, par exemple, une hyperinflation, ça peut être un choc politique. Ça n'a pas été suffisamment étudié. Ça a été étudié par le Trésor américain, par la Banque mondiale, par des économistes très célèbres comme Milton Friedman. C'est très important que cette information soit divulguée. Parce que l'information, elle est là et il faut nous préparer donc pour le prochain choc.
Justement, il y a un spectre dans votre livre, Naomi Klein, une sorte de fantôme, c'est justement celui de Milton Friedman, prix Nobel d'économie, mort en 2006. Milton Friedman et les Chicago Boys, on a avec lui la matrice théorique de ce système-là, de ce système qui fonde son approche du profit sur trois principes, la privatisation, la déréglementation et la réduction draconienne des dépenses sociales. Pourquoi avoir trouvé la souche, l'origine, dans le travail de Milton Friedman?
Si Milton Friedman n'avait pas existé, quelqu'un d'autre aurait joué ce rôle. Donc, ces idées viennent du marché lui-même, de Wall Street. Et la croisade de Milton Friedman vers la privatisation, vers la déréglementation, vers la coupe des fonds publics, c'est une contre-révolution aux États-Unis. C'est une contre-révolution très clairement comprise contre la nouvelle donne, contre le New Deal. Et donc, vous savez, après la dépression, c'est la gauche qui est allée au pouvoir. Les syndicats sont devenus beaucoup plus puissants et le capital a dû partager son pouvoir. Et il y a eu une révolte. Il y a une révolte des élites, une guerre des classes, une lutte des classes, des riches contre la classe moyenne, pardon, des pauvres contre la classe moyenne. Et si vous regardez cette politique de tuer Reagan, eh bien, cette guerre des classes a été vraiment, il y a eu des grosses réussites. Il n'y a jamais eu de plus grande victoire de la guerre des classes que depuis Reagan, les riches contre les pauvres. Et c'est le résultat. Et Milton Friedman a popularisé ces théories. Et Milton Friedman a reçu des budgets, des fonds par les corporations, par les entreprises les plus puissantes aux États-Unis.
Il y a le versant théorique de votre travail, Naomi Klein, et puis il y a aussi l'approche pratique, l'enquête de terrain, le travail de journaliste ou d'observateur au plus près des désastres. Vous vous êtes rendu à la Nouvelle-Orléans, vous avez été en Louisiane après le passage de l'ouragan Katrina, et c'est un assez beau cas d'école, et j'emploie l'expression à dessein, de ce qui se passe dans cette stratégie du chaos, notamment à travers l'école, justement. Le système d'enseignement public, décrivez-nous ce qui se passe après le passage de l'ouragan Katrina.
Je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas très bien au sujet de la Nouvelle-Orléans. On entend toujours que l'administration Bush a été incompétente, que c'était simplement des crétins. Malheureusement, si on va à Nouvelle-Orléans, à New Orleans, ce n'est pas de l'incompétence que l'on voit. Au contraire, c'est un processus extrêmement efficace où la sphère publique a été complètement détruite après Katrina. On a utilisé Katrina en tant que paravent, en tant qu'excuse. Et un très bon exemple, comme vous l'avez dit, c'est le système scolaire. Il n'y a pas grand-chose de laissé qui reste aux États-Unis qui n'ait pas encore été privatisé aux États-Unis. Mais il restait l'école. Et Milton Friedman a considéré que l'école était le dernier bastion du socialisme aux États-Unis. Et à l'âge de 94 ans, Milton Friedman a écrit un article qui a été publié dans un journal américain en disant que le fait que les parents, les enfants et les instituteurs étaient hors de la Nouvelle-Orléans à la suite de l'ouragan, c'était une tragédie, mais c'était aussi une occasion de refonder le système éducatif et de privatiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Nouvelle-Orléans est maintenant le laboratoire de l'éducation privée aux États-Unis. Avant le cyclone, il y avait 7 écoles qui étaient publiques. Des écoles privées. Il y avait 7 écoles privées avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus de 40. Même chose aujourd'hui avec les HLM. Les HLM ont été complètement détruits et remplacés par des copropriétés et des hôtels. Donc, l'administration Bush n'est pas incompétente quand il s'agit de s'occuper des gens et de faire leur travail en tant que gouvernement, mais en fait, ils sont très utiles pour les gens qui payent pour leur campagne électorale, et très peu de gens sont plus efficaces que l'administration Bush pour ces gens-là qui leur ont donné de l'argent.
Avec des raids systématiques qui surviennent contre la sphère publique au lendemain de grands cataclysmes, il faut lire ce que vous racontez de la Nouvelle-Orléans. Il faut aussi raconter ce que vous dites d'un tout autre contexte, c'est lorsque vous allez au Sri Lanka, juste après le passage du tsunami. Au Sri Lanka, qui a été là aussi une extraordinaire opération spéculative.
Le Sri Lanka, c'était très choquant parce que il y avait vraiment tellement de générosité à travers le monde et la France n'a pas fait exception. Et lorsque nous avons vu les images du tsunami qui avait détruit les vies de façon tellement arbitraire de pauvres pêcheurs à travers l'Asie, on voulait aider. Et ce qu'on voulait faire, c'est reconstruire les vies qui avaient été volées par cette catastrophe naturelle. Quand je suis allé au Sri Lanka, 6 mois après le tsunami, j'ai vu quelque chose qui représentait beaucoup plus comme de l'ingénierie sociale. Les côtes qui avaient été nettoyées par la vague étaient reconstruites, mais de façon totalement différente de la façon dont elles étaient précédemment. Les gens qui vivaient là-bas ont été relogés à l'intérieur des territoires et le bord de mer a été donné aux industriels du tourisme. Et donc, ce sont les détails qui m'ont le plus surpris. Je me suis rendu compte qu'une loi pour privatiser l'eau avait été votée 4 jours après le tsunami. Donc, à un moment où 40 000 personnes venaient de mourir, c'était le moment utilisé par les prêteurs internationaux pour faire passer une politique aussi impopulaire. Ça, c'est l'histoire du tsunami au Sri Lanka.
Parce que les sociétés en état de choc, écrivez-vous, abandonnent leurs droits, des droits qu'en d'autres circonstances, elles auraient défendus jalousement. On va y venir justement à ce conflit entre la liberté des marchés et la liberté des peuples, Naomi Klein. Il est 8h05 sur France Culture. Un lecteur de votre livre est prêt à se livrer à sa chronique quotidienne. Bonjour Alain Gérard Slama. Complot idéologique et idéologie du complot.
Eh bien oui, en dépit des précautions prises dans le livre également par Naomi Klein, le problème que me pose son livre, c'est malheureusement que concrètement, elle en arrive à défendre une thèse qui est la thèse du complot. Ce qui me gêne dans ce livre, c'est pas le procès qu'elle dresse des effets dévastateurs du libéralisme économique chaque fois que les remèdes de l'économie libérale sont appliqués de façon autoritaire à des sociétés qui ne sont pas préparées à les recevoir. Ce qui me paraît contestable, c'est la présentation constante des crises comme des choix volontaires destinés à rendre possible la mise en œuvre de politiques libérales. Je ne vois pas ce qui distingue cette thèse d'une théorie du complot. Nul, je crois, ne conteste que le FMI, par exemple, ait aggravé le sort du peuple argentin en imposant à son gouvernement des mesures d'équilibre budgétaire et d'assainissement monétaire drastique à partir du début des années 1980. Mais cette politique ne prenait absolument pas la suite du désastre économique de la dictature Videla. Et la situation économique qui a été créée par le FMI a été aggravée dans les années 90 par d'autres facteurs, notamment par la crise mexicaine. Nul ne conteste non plus, pour rester en Argentine, que la guerre de 82 des Malouines, menée par Margaret Thatcher, ait renforcé le pouvoir de cette dernière, en un moment où elle affrontait la grève des mineurs. Mais de là à présenter la guerre des Malouines comme un instrument utilisé par Margaret Thatcher pour mieux écraser les syndicats est une sollicitation des faits qui me paraît abusive. Nul ne conteste non plus que la Russie d'Eltsine ait fait fausse route, ouvert la voie à Poutine, en privatisant à tout va, et en livrant ainsi l'économie de la Russie à une nouvelle nomenclatura, brutale et cynique, sans améliorer pour autant le sort du peuple. Mais il est juste de rappeler que c'est l'effondrement du système soviétique qui a précipité le pays vers les illusions coûteuses d'un remède miracle. Autrement dit, il existe des complots idéologiques, celui de Lénine en Russie, celui de Hitler en Allemagne, mais cela n'autorise pas à tomber dans le piège de l'idéologie du complot. Et lorsqu'il y a complot, il faut se garder aussi de se tromper sur les intentions du complot. Par exemple, est-ce qu'on peut dire, si on suit la démarche de Naomi Klein, que Hitler a fait son coup d'État après son arrivée au pouvoir démocratique par la voie démocratique pour mettre en place l'économie keynésienne mise en œuvre par le docteur Chartres en Allemagne? Ce serait une absurdité totale. Ce serait diaboliser le keynésianisme en dressant un parallèle, en quelque sorte, entre Hitler et Roosevelt. De même, le libéralisme économique ne mérite ni cet honneur, ni cette indignité. Même Wright Mills, qui mit à la mode au milieu des années 50 la thèse du complexe militaro-industriel, a mis en évidence des logiques fonctionnelles d'organisation plutôt qu'il n'a recouru au finalisme de la dénonciation d'un complot. Enfin, s'il y est une idée que la pensée libérale rejette, c'est l'idée de la table rase, inséparable pour elle de l'idée de révolution. Les théoriciens libéraux rejettent ce que Hayek appelait précisément le constructivisme. Leur imputer une stratégie du choc constitue à mes yeux, ne serait-ce que pour cette raison, pour le moins un paradoxe.
Commentaire Naomi Klein, on est dans le cœur du débat.
Il y a beaucoup que vous avez dit, donc je vais prendre quelques détails sur ce que vous dites, que je vais trop loin avec Margaret Thatcher, par exemple. Je cite, et toutes mes preuves viennent directement des politiciens eux-mêmes. Margaret Thatcher, je dis qu'elle n'était pas capable d'imposer une thérapie de choc, une révolution au Royaume-Uni sans crise. C'est le but de ce chapitre, c'est véritablement de secouer la belle histoire, le conte de fées de son histoire, que son idéologie s'est étendue de façon pacifique et démocratique, parce que de façon démocratique et pacifique, Margaret Thatcher n'aura pas pu le faire. Sa popularité, tout comme la popularité de M. Sarkozy aujourd'hui était plus basse que celle de M. Sarkozy d'ailleurs. Elle était à 18% et soudain, la guerre des Malouines a éclaté. Et c'est Thatcher elle-même qui a dit, nous avons combattu l'ennemi en Argentine, maintenant il faut combattre l'ennemi intérieur. C'est une citation où elle use délibérément une image de guerre contre les syndicats. C'est son image, c'est pas la mienne.
On y reviendra.
L'idée de la table rase, évidemment, on va y revenir. Et le débat sur le libéralisme, on l'ouvrira, Naomi Klein, juste après les informations France Culture 8h.